بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va essayer aujourd'hui de compléter, inshallah, les petits signes de Qiyama. On avait déjà commencé il y a quelque temps à voir les petits signes de Qiyama. On en avait vu pas mal. On avait vu certains petits signes de Qiyama en rapport avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son départ, en rapport avec la pratique de la religion, la science religieuse, le Coran, les biens financiers, les fitna concernant les femmes, concernant la dépravation des mœurs à la fin des temps. On a vu également certains signes en rapport avec les constructions, les mosquées, ce qui concerne les terres saintes, Makkah, Medina, Munawwara, les matières premières. Il nous reste à voir quelques points, il n'y en a pas énormément. Il y a 6 points qui nous restent à voir. Premier point, tout ce qui est en rapport avec le temps. Hein, qu'avant la fin des temps, viendra une époque où il n'y aura plus de bénédiction de le temps. Deuxième point, le départ, la mort des gens pieux, les ulama particulièrement, et les gens qui sont proches d'Allah, vont quitter peu à peu ce dunya sans être remplacés. Troisième point, viendra une époque où il y aura, on ne parle pas de dérèglement, mais un changement majeur dans, on pourrait dire, dans le climat. C'est pas comme on dit le dérèglement climatique, ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à l'apparition de phénomènes météorologiques ou géologiques inexplicables, particulièrement la recrudescence de tremblements de terre ou de glissements de terrain ou alors des chutes de pierres inexpliquées. Quatrièmement, et ça Allah nous protège, Inch'Allah, hein, la transformation des gens. Des gens, ils seront défigurés, comme il y a eu à l'époque des Banu Israël ou d'autres populations avant les musulmans, des gens qui ont été punis par Allah Azzawajal, par ce qu'on appelle en arabe al-masru, la défiguration des gens qui étaient transformés en singes ou en porcs. Viendra une époque à la fin des temps, pas Inch'Allah, cela ne touchera pas le commun des musulmans, parce que le prophète avait demandé la protection pour sa communauté contre la défiguration. Mais à la fin des temps, quand il restera les pires des gens, viendra une époque où, mais certains hadiths prouvent que cela touchera des gens qui ont la foi. On va voir ça, Inch'Allah. Cinquième point, Allah nous protège également, mais là, c'est les situations les plus catastrophiques. Le retour de beaucoup de musulmans vers le polythéisme, l'adoration des idoles. Certains idoles qui étaient adorées à l'époque de Jahiliyyah, à l'époque d'avant l'islam, comme Al-Lat, Al-Uzza, etc. Ces idoles seront adorées de nouveau. Et enfin, dernier point, ce n'est pas le dernier petit signe, mais c'est dans l'ordre qu'on a fait. Hein, on n'a pas respecté l'ordre vraiment des signes, mais ce n'est pas un thème. Le dernier point viendra une époque où il y aura un tel degré de dépravation, la religion, vivre sa religion sera tellement difficile que les gens souhaiteront la mort. Que les gens souhaiteront la mort, mais ils ne mourront pas. Et jusqu'à ce que cette difficulté qu'il y a à pratiquer la religion va atteindre, on pourrait dire, le paroxysme, le maximum, la pire des situations que la Ummah n'a jamais connue. Et là, Allah Azza wa Jal enverra Al-Imam Al-Mahdi, qui fait partie, donc, sa venue. C'est le premier grand signe du Qiyam. Alors, premier point, on va être assez rapide parce qu'au moins, Inch'Allah, on peut essayer de compléter ça ce soir. Premier point, avant la fin des temps, le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu, yataqarabu zaman, le temps va se rapprocher. Ça veut dire quoi? Le temps va se rapprocher. Nous savons que sur le plan scientifique impur, ou alors par rapport à la logique, le temps. Quand je vous parle du temps, c'est quelque chose qui est indissociable. Une minute à La Réunion, c'est une minute en France, c'est une minute sur la Lune, etc. D'accord? Quand on dit une année, c'est 365 jours, si on parle du calendrier solaire. 365 jours, c'est 12 mois. 12 mois, c'est des mois de 30 ou alors de 31 jours. Chaque jour est composé de 24 heures, chaque heure est composée de 60 minutes, chaque minute de 3600 secondes, etc. C'est quelque chose d'indissociable. Tout comme on ne peut pas dire qu'un kilomètre en l'an 2000 et un kilomètre en l'an 2500, ce ne sera pas pareil. De la même manière, sur le plan scientifique pur, on ne peut pas dire que le temps en 1980 est plus long que le temps en 2000 ou que le temps en 2050. Mais non, ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous le dit, il nous l'affirme que le temps se rapprochera. Nous voyons vraiment quelle est la frontière entre le monde concret, je ne veux pas dire le monde du réel et de l'irréel, le monde concret, le monde palpable que nous pouvons comprendre par l'expérience. L'expérience, c'est un terme philosophique. L'expérience, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui est vécu et les enseignements qu'on tire du vécu. Par rapport
à notre logique, on pourrait dire, ce qu'on a constaté, hein, par rapport à toutes les générations, ce qu'on a constaté comme loi physique, ça, il y a une frontière entre ce que nous avons eu comme acquis et ce qu'on appelle, on ne parle pas de l'irréel, ce qu'on appelle de ilmul ghaib, alamul ghaib, le monde de l'invisible. Lorsqu'on entre dans le monde de l'invisible, les lois physiques, les lois de la nature ne sont plus respectées. Parce que les lois physiques ont été organisées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a de ce dunya, hein, que ce soit dans le monde animal, le monde végétal, le monde humain bien sûr, les planètes, les terres, il y a un certain nombre de règles qui régissent ces mondes. Il y a un certain nombre de règles qui régissent ce monde et ces règles ont été fixées par qui ? Par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le monde fonctionne d'une manière uniforme. D'accord ? Même si de nos jours on commence à parler de dérèglement climatique, mais il y a une méthode, il y a une manière, ce qu'on appelle une sunna. Une sunna dans le sens de la création, il y a une organisation. Il y a une organisation de la vie qui a été fixée par Allah et les lois physiques que nous avons appris, nous avons découvert ou nous avons tiré des enseignements par rapport à l'expérience, hein, ça, l'expérience sur le plan scientifique. Ces lois physiques, ce sont des lois qui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala pour la vie de ce dunya. Maintenant, quand on parle de alimul ghaib, le monde de l'invisible, c'est une frontière. Et tout comme entre notre monde à nous et le monde des djinns, notre monde à nous et le monde des malaïka, ce sont des règles qui ne sont plus les mêmes, totalement différents. Les djinns, hein, ils ont une possibilité de se déplacer à une vitesse extraordinaire, comme à l'époque de Suleyman a.s. quand il demande qui c'est qui m'amène le arche de Bilqis, le trône de Bilqis. Il y en a un qui a dit, un des djinns qui a dit, qal'afiritu min al-djinni ana ati kabhi qabla ayn yartadda, qabla ayn yartadda alayka tarfuk, avant que, ou alors lui il avait dit qabla an taquma min maqamik, un entre deux, hein, je me trompe peut-être dans le ayat. Elle dit que avant que tu te mettes debout, tu quittes cette assemblée, le arche il est là. C'est-à-dire, il avait une possibilité de se déplacer à des milliers de kilomètres et porter un arche, un trône gigantesque, et de l'amener en une fraction de seconde. C'est-à-dire que c'est un monde totalement différent du nôtre. Entre notre monde à nous et le monde des malaïka, ce sont là deux mondes totalement différents. Lorsqu'on parle de Jibril alayhi salam, qui a ouvert une de ses ailes pour faire voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une de ces 600 ailes remplissait tout ce qu'un être humain peut voir, on comprend bien que nous ne sommes plus dans les mêmes valeurs par rapport à la constitution, la morphologie, si on peut utiliser ce terme, si ce n'est pas irrespectueux, la morphologie d'un ange, la compréhension d'un ange, etc., etc. Nous ne sommes plus dans le même monde. Également, on est en train de quitter le sujet, mais il y a un verset du Coran de la sourate, que j'oublie le nom, lorsqu'Allah Ta'ala dit Alhamdulillah, il a dit Khalaqa samawati wal arda, non, c'est pas ça, c'est surtout l'an'am. Un autre verset dans lequel Allah Ta'ala, au départ, il explique la création des anges, subhanallah, le verset, qu'Allah a créé les anges, et j'ai pas le verset en tête, et certains anges ont deux ailes, certains anges ont trois ailes. Les commentateurs du Coran, ils expliquent pourquoi Allah Ta'ala a besoin d'expliquer que certains anges ont deux et d'autres trois ailes. Certains moufassirines disent que c'est pour qu'on comprenne bien que notre logique à nous ne fonctionne pas pour le monde de l'invisible. Vous imaginez un oiseau avec deux ailes, c'est clair. Imaginons un oiseau avec quatre ailes. Il pourrait voler avec quatre ailes. Il pourrait, ça peut aller. Mais un oiseau avec trois ailes, c'est comme si il y aurait un déséquilibre, comme si ça pencherait. C'est comme si vous prenez un avion, vous mettez deux ailes ou alors quatre réacteurs d'un côté et deux réacteurs du côté gauche. Il y aura un déséquilibre. Lorsqu'Allah Ta'ala explique qu'il a créé des anges, si le verset me revient, Inch'Allah, il y a des anges qui ont été créés, certains ont deux ailes, d'autres ont trois ailes, c'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a une frontière entre notre compréhension du monde et ce qu'Allah Ta'ala a créé dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le monde du réel, c'est un lapsus du réel, le monde concret dans lequel nous vivons. Donc pareil, lorsqu'Allah Ta'ala explique que le temps va se raccourcir, c'est une réalité. Et c'est le début du changement, c'est le début de la fin du cycle que nous connaissons, des lois que nous connaissons, parce que plus on approche les grands signes, c'est-à-dire quand le grand signe de Qiyamah arrive, les lois que nous connaissons vont exploser, c'est fini ça. Il n'y a plus de loi de physique, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus rien du tout. Lorsqu'on a Imam Mehdi qui vient, lorsqu'on a Ad-Dajjal qui vient, qui fait des miracles inexplicable, incompréhensible, donner la vie aux morts, faire pousser des plantes, etc., redonner la vie aux animaux, cadavres d'animaux, etc., etc. Nous ne sommes plus dans un monde réel. Nous ne sommes plus dans un monde qui est explicable. Quand nous avons une personne comme Isa al-Islam qui retourne après combien de temps ? On ne peut pas dire 2000 ans, 2500 années, 3000 ans, on ne sait pas, lorsqu'Isa alayhi salam revient et qu'il est encore, il a là, il a le même âge que lorsqu'il a été élevé au ciel, les cheveux, il venait de prendre un bain, ses cheveux étaient mouillés, il retourne les cheveux, hein, dégouline encore d'eau, nous ne sommes plus dans le monde explicable, nous ne sommes plus dans un alam, dans un monde où tout peut être expliqué par des thèses scientifiques précises. Donc c'est quand on approche les grands signes de Qiyama, il n'y a pas besoin de l'au-delà. Quand on entre dans les grands signes de Qiyama, notre vision des choses, notre logique, nos lois physiques ne sont plus respectées. Nous passons maintenant dans une autre phase, dans une autre dimension. Également, dans le hadith qui précise un peu plus cela, le prophète والسلام, dit « La taqoumu sa'atu hatta yataqarabu zaman » La fin du monde ne viendra pas tant que le temps sera rapproché. Et là, le prophète m'explique de quelle manière. Et là, on voit bien que ça a l'air d'être concret ce que le prophète sallam dit. Fatakunu sanatu kashahri, l'année passera comme un mois. Wayakunu shahru kaljum'a, le mois passera à la vitesse d'un quand on parle de al-jum'a, on connaît c'est le vendredi, mais c'est le plan fusha littéraire pur, un jum'a ça se dit également pour une semaine. Donc un mois passera comme une semaine. Watakunu al-jum'atu kalyawm, et la semaine passera comme une journée. Et ainsi de suite, la journée passera comme une heure et l'heure passera comme quelques secondes. Et c'est là une réalité. Hein, tout le monde peut le dire que nous n'avons plus de baraka de le temps. Et ça, tout le monde le dit. Ben, vieux câlin, comme les jeunes, comme tout le monde le dit, maman, il n'a plus baraka de le temps. Effectivement, nous constatons que le temps passe de plus en plus vite. Les événements s'enchaînent. Les ramadans s'enchaînent, les ifs s'enchaînent, les bakrides s'enchaînent. Et nous nous contentons de dire, maman, le temps il passe vite. Mais au-delà du fait de constater que le temps passe vite, comprenons qu'une année qui passe, c'est une année de moins à vivre. C'est un laps de temps qui est passé dans notre espérance de vie et on se rapproche d'année en année de Malik al-Maut, du moment où on va quitter ce dunya. Alors, il y a deux commentaires possibles sur le sens de ce hadith. Il y a le commentaire ma'nawi, par le sens, comme Ibn Hajar, hein, le commentateur de Fathul Bari, il explique dans les commentaires de Bukhari Sharif, il explique que certains savants, certains ulama sont d'avis que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que le temps va s'écouter avant la fin du monde, ça veut dire qu'il n'y aura plus de baraka, il n'y aura plus de bénédiction, dans le temps. Quoique les jours resteront pareils, il n'y a pas de différence, lever, coucher du soleil, il n'y a pas de changement de rythme, mais il y aura moins de bénédiction dans le temps. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons constater par la lecture des hadiths, lorsque nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, ils pouvaient faire un khatm al-Qur'an en une nuit. Un sahaba, je ne sais plus son nom, il dit qu'il a joint le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de faire la salat, il a commencé la sourate Baqara, il enchaîne les autres sourates, deux ou trois grands sourates, et là, à un moment donné, le sahaba dit qu'il ne peut plus suivre. Mais nous-mêmes, si on décide de lire 5-6 par an, je ne sais pas moi, ça nous prendrait combien de temps? Ça nous prendrait au moins 2h30 à 3h. Et le prophète, il le fait peut-être en une rakat. Dans d'autres récits, et puis ce n'est pas que par rapport au prophète, on aurait pu dire que c'est un mu'jiza, c'est un miracle. Mais même quand on analyse la vie des a'imma, d'Abu Hanifa, d'Imam Shafi'i, rahimahumullah, etc., nous voyons que c'est des gens qui font un khatm al-Qur'an en une nuit, principalement durant le mois de Ramadan. Théoriquement, si on pense que, si on parle du fait qu'il faut 30 minutes pour lire un sipara, 30 sipara, il nous faut combien de temps? 15 heures. Il n'y a pas de nuit qui comporte 15 heures. À moins qu'il commence, à moins qu'il ne fait pas Talavid, il fait sur 4000 Quran, mais je ne pense pas. Ou il ne fait pas Fajr, il fait sur 4000 Quran, mais ils ne sont pas à ce niveau. Donc, si on regarde, et c'est sûr que ce sont des gens, lorsqu'ils lisent le Quran, ils lisent pas comme nous, comme je m'entends dans Ramadan, les gens ils lisent, c'est plus un bourdonnement qu'une lecture. C'est on y va vite, vite pour terminer, pour boucler le 4000 Quran, sans essayer de méditer, de la compréhension, la beauté des mots, etc. C'est des gens, quand on parle d'Abu Hanifa, Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed, c'est des gens, lorsqu'ils lisent le Coran, ils lisent comme Allah l'a demandé, avec tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Et donc, déjà à leur époque, nous constatons qu'il y a une différence énorme dans le temps. Alors que d'année en année, nous voyons, même si on peut remonter à 50 ou 60 ou 70 ans, les gens disaient que avant, le temps avait plus de bénédictions dans le temps. Donc c'est dizaines d'années plus tard, nous voyons que le temps, c'est comme si que le temps se raccourcit. Donc c'est ce que Ibn Hajar dit, c'est un des commentaires possibles, qu'il y aura moins en moins de bénédictions dans le temps. Nous n'avons plus la possibilité de faire grand nombre de choses dans un même laps de temps dans lequel nos grands-parents ou nos ancêtres faisaient énormément, énormément de choses. Et puis, cette notion de baraka, hein, on le retrouve également dans le rapport avec la nourriture. Lorsque nous lisons Bismillah wa ala barakatillah, avant de manger, nous demandons à Allah de mettre la baraka, la bénédiction de la nourriture. Alors, par exemple, quand vous avez un plat de nourriture, d'accord, vous avez une pizza, hein, pour être un truc un peu plus concret, vous avez une pizza, il y a 8 triangles. Ce n'est pas parce que vous dites Bismillah wa ala barakatillah qu'il y en aura 18. Sinon, il faut me donner la recette, ou alors les pizzaïs vont faire faillite, ce serait formidable, d'accord. Donc, on va dire que c'est quoi la baraka? C'est que peu de nourriture remplit le ventre. Il n'y a pas besoin de manger une pizza XL pour avoir le ventre plein. Peut-être une pizza XL, 4 personnes peuvent manger à ventre plein. Et deuxième chose, cette nourriture vous donne la possibilité d'accomplir des actions qui vous rapprocheront d'Allah. Ça, c'est le sens du baraka de la nourriture, c'est que cette nourriture vous permet de faire de bonnes actions. Vous donne la force de faire de bonnes actions. Et le même sens, c'est-à-dire là, nous sommes dans le sens figuré du hadith. Le temps sera aussi au sens figuré, plus de bénédiction dans le temps, alors que le temps ne change pas en lui-même. Également, lorsque nous savons que le prophète a dit que celui qui va renforcer, qui va entretenir les liens de parenté, dire avec mon père, avec ma mère, mes oncles, mes tantes, mes nièces, mes neveux, c'est-à-dire entretenir les liens familiaux. Même si d'un côté, il ne veut plus quoi, exode, il ne veut plus machin, mais moi, j'ai fait mon possible pour entretenir les liens avec la famille, ceux qui m'aiment pas également, et principalement ceux qui ne m'aiment pas. C'est ça la plus grande récompense. Le prophète m'a dit que cette action qui est appréciée par Allah, cela augmente l'espérance de vie du musulman. Là aussi, il y a deux interprétations, au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, c'est quoi? Ça rejoint la notion de baraka. C'est-à-dire que dans le nombre d'années que nous avons à vivre, Allah Azza wa Jalla nous accordera le tawfiq, nous choisira pour accomplir le maximum de bonnes actions. C'est-à-dire que notre vie sera meublée de bonnes actions. Vaut mieux vivre 50 ans dans l'obéissance d'Allah que de vivre 120 ans un peu à droite et un peu à gauche, mudabdab entre ça et ça. Donc c'est ce sens figuré que nous retrouvons dans d'autres textes en rapport avec le terme baraka, le terme bénédiction. Maintenant, et là nous passons à un autre sujet, viendra une époque où vraiment le temps, il y aura un changement radical dans le temps, mais là ce sera au sens propre. Ça on verra un jour, Inch'Allah, ce sera la venue de Dajjal, alayhi la'natullah, qui durera 40 jours, et là le prophète m'a bien expliqué que le premier jour sera comme une année, et puis c'est comme un mois, et puis etc, etc, d'accord. Et là les sahabas, ils avaient demandé, sachant que c'était au sens propre, c'est-à-dire il n'y a plus de lever, de coucher du soleil pendant un an. Est-ce que nous pouvons faire un lien avec une catastrophe climatique, alignement des planètes, ou je ne sais quoi, hein? Moi, comme j'ai dit avec notre frère Rachid, qu'il faut absolument qu'on voit le film 2012. J'attends que ça sorte, je ne peux pas aller au cinéma, avec un grand bar comme ça, il ne passe pas. J'attends de voir ce film, parce que c'est extrêmement important. Ce film, mes chers frères, dont on n'a vu que l'extrait, je crains que ça mette beaucoup de doutes dans les croyances de nos jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont regarder, concernant Asharat al-Sa'a, concernant la fin des temps. Il risque d'y avoir un amalgame entre nos croyances à nous et les croyances Inca, Maya ou Maya Labé, je ne sais pas, tout ce genre de choses. Il risque d'y avoir amalgame. Donc, il est important de voir le film, de comprendre leur thèse et de pouvoir donner notre vision des choses. Parce que les textes que nous avons, ça, ce n'est qu'un montage cinématographique qui a pour but d'éveiller les consciences, non. De rapprocher les gens de Dieu, non. Qu'ils aient conscience qu'il faut prendre soin de la nature, on s'en fout royalement. De faire rentrer de l'argent dans la caisse du producteur et du metteur en scène. C'est le but exclusif. D'accord. Mais malheureusement, beaucoup de gens vont le croire, vont voir ça comme ils vont écouter un hadith. C'est-à-dire, ça se passe ça comme ça et tout. Et il est grave. Si nous allons jusqu'à croire aux croyances maya, c'est maya ou zinca? Maya. Si nous allons jusqu'à croire aux croyances, aux convictions, aux religions mayas, qui étaient avant tout des adorateurs du soleil, ils adoraient le soleil, ils croyaient au retour des ancêtres, etc., etc., ben, là c'est grave, là nous sortons totalement du cadre du monothéisme, d'accord. Donc ça, c'est extrêmement important, ça marche ensemble ça, on ne peut pas se limiter juste à ce que nous avons, c'est le plus important, mais il faut voir, parce que nous, ce que nous expliquons là, qui c'est qui écoute, il y a 20 personnes, mais il y a 2000 musulmans, 2000 jeunes qui n'ont aucun intérêt à écouter ça. S'ils veulent savoir quelque chose, ils vont regarder le film, ils vont se construire une idée de la fin du monde par rapport au film. Donc c'est à nous de voir qu'est-ce qu'ils vont ils vont avaler comme couleuvre, quelle que soit la longueur, et nous, nous allons essayer, Inch'Allah, de montrer à la lumière du Coran et à la lumière des hadiths quelle est la vision, on ne dit pas notre vision, mais la vision juste de la fin des temps, comment cela se passera exactement. Voilà. Donc, à la venue de Dajjal, puis une tienne idole, Sahara a demandé au prophète d'Allah, ben, pendant cette période où, en ce sens, hein, un jour durera un an, comment est-ce que nous allons faire nos salats? Parce que la salat est rythmée par rapport au lever, au zénith et au coucher du soleil. Donc, ça m'a dit, qaddiruha, hein, essayez d'estimer le temps qui passe et faites une. C'est-à-dire qu'entre un lever et un coucher du soleil qui durera un an, ben, on accomplira le namaz d'une année entière. D'accord? En estimant le temps qui passe par rapport aux habitudes que nous avons de faire la salat. Là, une petite parenthèse, vous voyez comment les sahabes les posaient, ils avaient ce fiqab. Ils ont dit au prophète d'Allah, pendant un an, comment on va manger, comment on va boire, comment on va savoir l'heure des repas, il y aura du soleil, il n'y aura plus de plantes, il y aura tel, comment on va manger. Non, ce n'est pas le fiqab. Le fiqab du prophète d'Allah, comment est-ce que nous allons faire nos prières. Donc ça, c'est un des petits signes de qiyama que nous avons peut-être, nous voyons déjà certaines traces, mais qui va s'amplifier jusqu'à la fin des temps. Il y aura moins en moins de bénédictions dans le temps. Ah. Deuxième point, le prophète sallam a dit, يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. À la fin des temps, les gens pieux, les salihin. Salih, ça veut dire quoi? Salih, c'est un homme vertueux et pieux. Les salihin, les gens pieux, quitteront ce dunya. Et dans d'autres hadiths que nous verrons par la suite, hein, Allah Ta'ala reprendra les ulama. Les ulama repartiront. Allah et le Prophète a expliqué qu'à la fin des temps, la science sera retirée de ce dunya. Mais Allah Ta'ala ne reprendra pas la science c'est-à-dire que la science ne sortira pas du cœur des gens. Non, hein, la science quittera cette ummah par le décès des personnes qui portent la science, qui sont des porteurs de science. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les pauvres alims comme nous, c'est vraiment quand nous voyons des gens du calibre de Abu Hanifa, Shafi, Imam Malik, des gens du calibre d'Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Nasa'i, qui ont quitté ce dunya dont nous ne voyons plus l'équivalent de nos jours. Il n'y a plus de ulama vraiment qui ont un tel potentiel, mais ça fait partie des Ashrat al-Sa'a. Et même à notre époque, hein, nous constatons qu'il y a beaucoup de grands savants dans le monde musulman tout entier qui sont en train de quitter ce dunya et qui ne sont plus remplacés. Et ce qui est important d'expliquer, c'est une parenthèse, mais une parenthèse qui me tient à cœur, c'est lorsqu'on dit que les ulama vont quitter ce dunya, il ne faut pas être nombriliste. C'est-à-dire que quand on parle des ulama qui vont quitter ce dunya, c'est nous de Ben Ulama. Nous, Ben Ulama, ils sortent l'Inde, Gujarat, tel qu'il soit. Non. Quand on parle des ulama, c'est les savants, ceux qui détiennent la science. Que ce alim habite en Inde, qu'il habite en Turquie, parce qu'en Turquie, il y a des grands ulama. Qu'il habite en Indonésie, parce qu'en Indonésie, il y a des grands ulama. Qu'il habite en Malaisie, qu'il habite au Pakistan, qu'il habite au Cachemire, qu'il habite au Bangladesh, qu'il habite dans les pays arabes, etc. etc. N'importe quelle personne qui porte dans son cœur la science religieuse et qui le propage, ils font partie des gens de science. Parce que c'est un sujet assez sensible, parce qu'il y a eu, une époque où on a essayé de semer la divergence entre les musulmans par rapport aux origines. Et de nos jours, nous voyons parfois certains discours. C'est un discours extrême qui disent que ouais, Ben Alim l'Arabie, ça n'est pas pareil, ça qui sort de Makkah, Madina, est comme ci, comme ça. Et dans l'autre sens aussi. Elle a dit Ben Indien, c'est Ben Bidati, ça fait ça, ça fait ça. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est voulu par les koufars. Comme expression, il dit diviser pour mieux régner. On divise pour mieux régner. Et quand est-ce que nous avons trouvé les conséquences, nous avons constaté les conséquences de cette division dans l'histoire de l'islam? Dans l'Empire Ottoman, Ad-Dawla al-Uthmaniya. L'Empire Ottoman, qui dirigeait l'Empire Ottoman? Quel pays? Masha'Allah, fin des bacs cette année. Allahu Akbar. Si c'était moi, j'aurais retiré les diplômes. C'était les Turcs, Al-Atraq. Les Turcs étaient, regardez Haram Sharif, Inch'Allah, là vous emmène, regardez Haram Sharif Makki, Haram Sharif, d'accord? Tout autour du Mataf. Ce n'est pas les constructions saoudiennes, vous trouvez. C'est l'ancien, quand on parle l'ancien Haram Sharif, ce sont là des constructions turques. Quand on voit les grosses pierres, les grosses briques de couleur brique, hein, les briques de couleur orange, un peu beige, d'ailleurs le gouvernement saoudien est en train d'enlever ça, en train de refaire parce que c'est vieillot. Et les Turcs ne sont pas contents, ça c'est les vestiges de notre empire, l'Empire Ottoman, mais on n'est pas su entretenir l'Empire Ottoman, on ne va pas entretenir vos murs. Donc, pendant l'Empire Ottoman, il y a eu une puissance coloniale, c'est pas la France, hein, jamais, la France, c'est des gens bien ça quand même. Il y a une puissance coloniale dont on ne citera pas le nom, qui a tout fait pour semer la divergence, la zizanie, il faut faire une fracture entre les deux puissances musulmanes, entre les Arabes et les Turcs. Et il y a eu une telle division entre Arabes et Turcs que les Turcs, ils se sont sentis parfois un peu complexés par rapport aux Arabes. Et ils ont décrété que l'islam, c'est nous qui le portons. C'est vrai, l'Empire ottoman était divisé par les Turcs, d'accord? C'est nous qui portons l'islam, et donc notre culture sera la culture musulmane. À un tel point, c'est arrivé, un tel degré de bassitude hein, dans le désir de s'émanciper, de montrer que c'est eux qui dirigent le monde musulman, que le azan était donné en turc. Il ne donnait plus le azan en arabe, mais il donnait le azan en langue turque. Ça, c'était la pire des choses. Et les koufars, c'est-à-dire ce pays particulier, hein, ils ont réussi à semer le trouble, la zizanie entre arabes et turcs. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement préjudiciable. Le plus important, mes chers frères, c'est que la communauté reste unie. Que nous soyons Hanafi, Shafi'i, Maliki, Imam Ahmad, quels que soient les madahib, quelles que soient les origines, quels que soient les continents, quelle que soit la couleur de la peau, le plus important, c'est que dans notre cœur, la croyance, l'aqidah soit pure. La croyance en Allah soit pure. Et le plus important, pour accepter quelqu'un comme alim ou comme je ne sais quoi, mufti ou autre chose, il faut regarder est-ce que dans la vie de cette personne, il y a l'importance donnée aux paroles d'Allah et l'importance donnée à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je parle de sunna, ce n'est pas juste la sunna sur l'apparence. Mais ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent la sunna pour eux, c'est juste la barbe, le turban, les vêtements, etc., etc. Je dis etc., c'est irrespectueux, mais c'est juste l'habit. Mais quand on gratte en profondeur dans les pratiques, et puis également manger la main droite, s'asseoir pour manger, dormir par terre, ça c'est les sunnats, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand on gratte un peu plus, on va dans les croyances, on va dans l'approche des textes, nous voyons qu'ils sont à des années-lumière de la sunna. Dans l'approche des textes, dans la pire des choses contre laquelle le prophète alayhi salat wa sallam nous a mis en garde, hein, c'est l'innovation, les changements dans la religion. Lorsque le prophète sallam dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun » celui qui apporte dans notre religion quelque chose d'étranger, c'est-à-dire quelque chose que je n'ai pas fait moi, mes quatre compagnons n'ont pas fait, Ibn Mas'ud, Abu Huraira, Amir ibn al-Jarrah, etc., ils ne l'ont pas fait. Les ashab al-Qurun al-Mufaddala, les tabi'in, les atba'i tabi'in ne l'ont pas fait. Celui qui amène quelque chose et qui ose dire que ça fait partie de l'islam, le prophète m'a dit quoi? Fahwa raddul. C'est un jugement jusqu'à le qiyama, ça. Cette action est refusée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'expliquait dernièrement de le Jum'ah, bon, on ne pouvait pas tout dire encore, mais il y avait un exemple qui était essentiel, qu'on n'a pas pu le dire, Allah musta'an, c'est le plus important, ce n'est pas la quantité des actions. C'est que les actions soient fondées, un, et deuxièmement, que la croyance soit pure. Un exemple précis, les Khawarij. C'était la première secte qui est apparue dans l'islam, les Khawarij. C'était qui les Khawarij? C'était des gens qui, de nos jours, on appelle ça les Ashab al-Takfir. C'était des gens qui disent, si une personne a commis un péché majeur, cette personne est kafir, n'est plus musulman. Et par conséquent, son argent est halal, on peut le combattre, c'est-à-dire, c'est allé très loin. Il y a eu des guerres, des batailles entre musulmans par rapport à ce mouvement des Khawarij. Et ce mouvement n'existait pas à l'époque, on est en 28 minutes, ce mouvement n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans Bukhari, le prophète m'a expliqué, bien viendra une époque où il y aura des gens qui diront telle chose. Le prophète m'a dit aux sahabas que ces musulmans-là, c'est des musulmans, hein. Le prophète m'a dit que si vous comparez vos actions aux actions de ces gens-là, vos actions ne valent pas grand-chose, ne représentent pas grand-chose. Ajib, ça. C'est-à-dire, en termes de quantité, ces gens-là, ils font plus de ibadat que vous. Et à quel point ça me dit ça? Il dit Abou Bakr, Omar, Uthman, Ali, aux Sahaba. Il dit que vraiment, c'est des gens qui font un quota de bonnes actions qui dépassent les Sahaba. Alors, ça c'est inexplicable, c'est inimaginable ça. Et dans cette hadith, c'est écrit comment ils ont des signes de prosternation sur leur front, des tâches namales peut-être XL, des tâches namas gigantesques. Le prince m'a expliqué que les simat, c'est-à-dire les signes de l'adoration sont présents chez ces gens. Ils font l'adoration d'Allah, il y a les signes en eux, mais le prince m'a dit a expliqué que leur croyance n'est pas correcte par rapport au fait qu'ils déclarent kafir quelqu'un qui dit la ilaha illallah parce qu'il fait un péché. Alors qu'Allah ta'ala est ghafour rahim. Donc ils sont sortis de l'aqidah, de la croyance dans les sunnahs, le prince m'a dit le sahaba, combattez ces gens. Elle dit parce que ces gens, ils quittent l'islam aussi rapidement que la flèche quitte l'arc. Aussi rapidement que la flèche quitte l'encre, ces gens quittent l'islam. Tellement le fait de sortir de la croyance, c'est quelque chose de dangereux. Alors que, à l'opposé, le professeur m'expliquait à propos d'Abu Bakr, il dit qu'Abu Bakr ne vous a pas dépassé par une quantité de bonnes actions. Mais pas Shay'un waqara fi qalbi. Il y a quelque chose qui était dans son cœur que les autres sahaba n'ont pas eu. C'est ça qui fait qu'Abu Bakr a dépassé tout le monde. Certes, en bonne action, Abu Bakr a dépassé tout le monde, mais ce qu'il avait, ce qui le distinguait, c'était son degré de iman. La foi, l'amour pour Allah, l'amour pour son prophète, alayhi salatu wassalam, le sacrifice qu'il a pu faire pour le prophète, salam, que personne n'a pu faire. Le prophète m'a dit que pour tous ceux qui m'ont aidé, qui ont fait le Nusrat du Din, je vous ai tous remboursé. Je vous ai compensé par rapport à ce que vous avez donné pour aider la religion d'Allah, sauf Abu Bakr. Elle dit ça, c'est impossible de lui donner ce qu'il a donné, de le rendre ce qu'il a donné. C'est uniquement Allah Ta'ala qui pourra le récompenser. C'est quelque chose qui avait dans son cœur l'amour, le sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Et dans une version, il dit que si, un hadith qu'on a déjà expliqué au moins 4 ou 5 fois, la wuzina iman wa Abi Bakr, si la foi d'Abu Bakr était mise dans une balance et la foi de toute la ummat, mis à part les anbiya, c'est-à-dire tous les sahaba, prenez les trois califes, prenez tous les sahaba après eux, tous les ulama jusqu'à la fin des temps, on met de l'autre côté de la balance, le iman d'Abu Bakr pèserait plus lourd. Ça nous fait comprendre comment Abu Bakr al-Siddiq était quelqu'un d'exceptionnel et d'unique dans la ummah. C'est-à-dire par rapport au iman qu'il avait, la confiance, l'amour pour Allah, l'attachement pour les ordres d'Allah, le respect et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le plus important, mes chers frères, quand quel que soit les pays d'où vient un cheikh ou un cheikh sur le plan transmission de hadith ou d'un alim, nous devons avant tout regarder est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les ordres d'Allah, est-ce qu'il a la sunna dans sa vie, mais également dans son approche des textes, et est-ce que c'est quelqu'un qui ne commet aucune innovation, aucune bid'a, aucun rajout à la religion. Il y a certains qui disent que oui, mais il y a bid'a qui sont bons. Il dit oui, quel exemple? Il dit regardez, jam'u al-Qur'an. Lorsqu'Abu Bakr a décidé de compiler le Coran. Alors qu'on sait que les sourates étaient fractionnées chez différentes tribus. D'accord ? Et Abu Bakr a eu une suggestion de Umar bin Khattab après une bataille de Ma'raka, j'ai plus le nom de cette bataille en tête, il y avait une bataille où il y avait beaucoup de Hufaz du Coran qui avaient été tués. Et Umar avait dit, oh Abu Bakr, hein, les Hufaz ont été tués en quantité, je pense qu'il faudrait compiler tout ce que Allah Ta'ala a révélé au Prophète sallam et qui sont gardés chez des gens précis, des sahaba précis. Et là, Abu Bakr a suivi, il a dit, oh Umar, mais est-ce que ce n'est pas une bid'a? Regardez déjà, l'époque d'Abu Bakr dit que le prophète ne l'a pas fait, pourquoi moi je l'ai fait? Ça, c'est le reflet du musulman. Ça, c'est le reflet de celui qui a la foi concrète, le réel iman. Si mon prophète ne l'a pas fait, pourquoi moi je l'ai fait? Si mon prophète savait que c'était bien, il l'aurait fait. Umar a dit, non, ça c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui va aider la ummah. J'avais dit, voilà, il a dit que c'est une bid'a hasana, c'est une bonne chose. Attention, ces gens-là, ils oublient un hadith particulier. Lorsque le prophète il explique que ce que les quatre califes ils font, ça fait partie de l'islam. Tout ce que Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, ils vont apporter à la religion, ça fait partie intégrale de l'islam. Mais ceux qui viennent après eux, non. Même Abu Huraira, qui mémorisait combien de hadiths? Combien il a transmis de hadiths? Plus de 5000 hadiths. Le plus grand rabbi de hadith, le plus grand narrateur de hadith, Abu Huraira. Mais Abu Huraira, s'il apporte quelque chose à la religion, on ne l'accepte pas. Mais si c'est les quatre califes, oui. Donc, pour eux, oui. Mais pour ceux qui viennent après, non. Donc, c'est ça qu'on doit bien comprendre. Le plus important, c'est de rester dans le surat al-mustaqim. Lorsque le prophète me dit, je vous ai laissé deux choses. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Ces deux choses, restez accrochés à ces choses. Coran, kalamullah et mes paroles. D'accord? Et vous ne serez jamais égarés. Et comme on a déjà expliqué, comment comprendre le Coran, comment comprendre les ahadiths, c'est pas en regardant sur internet. C'est pas en regardant des pseudo-moufassirs au XXIe siècle, des musulmans laïcs, comme M. Hassan il disait, des croyants laïcs, hein, ou des athées laïcs. Hein, ils avaient un terme, je suis musulman. Il y a des gens qui se disent, je suis musulman athée. Il a dit ça aussi, il a entendu. C'est-à-dire des pseudo, des islamologues qui vont commenter le Coran, qui vont commenter les hadiths. C'est pas au XXIe siècle qu'on aura la lumière. pour commenter les paroles d'Allah, les paroles du Prophète. Les vrais ulama qui ont commenté, ce sont les ulama qui sont décédés au 2e, 3e, 4e siècle de l'Hégire jusqu'au 4e siècle de l'Hégire. Les a'imma du hadith, les a'imma de tafsir, Ibn Kathir, As-Suyuti, Al-Zahabi, etc., etc. Ce sont eux les piliers de la transmission de la science. Et en termes de compréhension des actions, c'est Abu Hanifa, Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ce sont les quatre imams qui ont été acceptés dans le monde entier. Quel que soit l'imam qu'une personne suive, il sait qu'il sera toujours dans le droit chemin. Donc, pour clore ce sujet, le Prophète m'a dit qu'avant la fin des temps, les gens les plus aimés, les meilleurs quitteront. Et très souvent, nous constatons que malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs qui restent. Hein, ce sont toujours les meilleurs qui partent. Hein, parfois, il y a même des gens qui disent « Ouais, un tel moun, il n'y arrête pas, fatigué, un vieux, tcha-tcha, ben, ça là, il ne mord pas, il tient beau, il reste là même, d'autres, il mord, il reste là même. » Ce n'est pas à nous de décider qui reste pas. D'accord ? Elle dit, mais d'une manière générale, avant la fin des temps, les meilleurs des personnes retourneront vers Allah. Et ça, c'est une hikmat également que ces gens qui ont ce iman presque parfait ne connaîtront pas les dépravations, les fitnas de la fin des temps. Hadith, ce prophète était avec des sahaba. Ils étaient en train de manger des dattes. Et là, le prince, et puis il restait que un peu de peau et de, comment ça, les graines, nawat, les graines de dattes. Et le prince m'a dit qu'à la fin des temps, il a dit que, tazhabouna al-khayyar fal-khayyar hatta la yabqa minkum illa midra hada. À la fin des temps, les meilleurs et les meilleurs quitteront ce dunya jusqu'à ce qu'il reste comme ça. C'est-à-dire que les grains, hein, pour pas, hein, les grains et les branches, etc., etc., c'est-à-dire les meilleurs des personnes quitteront ce dunya. Il y avait une fois le Prophète sallam, c'est une petite parenthèse, on voit comment le Prophète sallam plaisantait les sahaba. Ce n'est pas toujours sérieux, non, c'est pas comme, hein, le Prophète sallam parfois plaisantait les sahaba. Une fois, il y avait un groupe, le Prophète sallam mangeait des dattes avec un groupe de sahaba, il y en a un, je n'ai pas les noms en tête, on peut retrouver, ils avaient mangé une certaine quantité de dattes. Comment on sait combien de dattes vous avez mangé? Par rapport aux grains, d'accord? Il y avait un sahaba qui avait pris tous les grains et qui avait déposé auprès d'un autre. Il dit, quelle quantité d'actes il a mangé là? Et le prophète m'a dit, lui, mais au lieu plus gourmand, on a mangé d'actes, on mange de grains tout ensemble. Donc, on voit, subhanallah, comment le prophète sallam aimait plaisanter avec le sahaba. Donc, c'est à peu près ce qu'on devait dire concernant ces deux signes. Il nous restera, la prochaine fois, inshallah, on va aborder les tremblements de terre, ceux qui commencent à se faire voir, mais également chute de pierre. Et apparemment, dans 2012, dans le feu qu'on a pu voir, il y a question de météorites qui tombent, d'accord? On va voir qu'est-ce que le Prophète sallam dit à propos de ces chutes de pierre. Il faut savoir qu'il y a eu des époques où il y avait ce que 2012 annonçait. Quel peuple a été anéanti par des chutes de pierre? Le peuple de Lot alayhi salam. Allah ta'ala a envoyé des pierres qui avaient anéanti ce village, puis le village a été porté, renversé et jeté au Lamstan. Également, on verra ce qui ne se passe pas. Ce qui ne s'est pas passé à l'époque du Prophète sallam, mais qui se passera à la fin des temps, quand il dit la transformation des gens qui sont défigurés en singes et en porcs. Et il y a, subhanallah, il y a même un hadith, on a retrouvé un hadith authentique, hein, qui est sahih, qui est rapporté par Abu Daoud, dans lequel le Prophète m'a expliqué dans quelle région du monde musulman cela se produira. Mais ce genre de hadith, vous comprenez bien qu'on ne va pas le citer, on ne va pas dire que dans tel pays il y aura telle chose. Dans ce genre de hadith, on n'a pas besoin de dire, mais d'une manière générale, on sait que cela se produira à la fin des temps, ainsi que le retour de certains musulmans vers le polythéisme et le désir de mourir. Et après ça, Inch'Allah, la fois d'après, on essaiera d'enchaîner directement avec une présentation de la situation du monde avant la venue d'Imam Mehdi. Parce qu'avant de parler d'Imam Mehdi, il y a un chapitre important, comment sera le monde musulman avant la venue de l'imam Mehdi. Parce qu'on avait dit en introduction il y a un an et demi, beaucoup de gens ont dit que de nos jours, on a tellement de problèmes qu'il faut l'imam Mehdi, même il vient. On verra, est-ce que vraiment nous avons atteint la pire des situations qui justifie la venue de l'imam Mehdi, ou alors à la fin des temps, la situation de la communauté, de la Ummah sera plus critique. Et nous verrons que c'est beaucoup plus critique que ce que nous sommes en train de vivre. C'est une époque où vraiment celui qui dit Allah, qui se déclare musulman, la personne sera immédiatement abattue. Dans ce genre de situation-là, Allah Ta'ala enverra son aide par la venue d'Imam Mehdi. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah nous accepte. Le plus important, ce n'est pas de parler, ce n'est pas de faire beaucoup de bonnes actions, c'est que nos cœurs soient purs, que dans notre cœur, mon but, c'est quoi? C'est de me rapprocher d'Allah et d'être toujours humble, d'avoir le cœur rempli d'humilité. Jamais se dire que moi, Milan Moussalim, depuis 50 ans, je fais namaz premier saf. Voilà, moi, Milan Alim, moi, Milan Moufti, moi, Milan Tachan. Wallahi, personne ne sait. Peut-être quelqu'un a embrassé l'islam hier, il nous a tous dépassés par tellement son désir de se rapprocher d'Allah est plus fort que le nôtre. Personne ne sait comment on va quitter ce dunya. Il y a des gens qui, le Prophète m'a expliqué toute sa vie, une personne fait des actions qui le rapprochent du paradis. Avant de mourir, la personne fait une action des gens de l'enfer. Et Allah Ta'ala écrit son nom parmi les gens de l'enfer. Vraiment, qu'Allah nous protège. Personne n'a le garantie du Jannah. Ce n'est pas parce que j'ai tel titre, j'appartiens à telle famille, que je suis sûr de mourir avec Shahada. Pour ça, dans la salat, tout le temps nous demandons Ihdina Sirat al-Mustaqim. Et c'est un droit que nous devons tout le temps demander. Oh Allah, garde-nous dans le iman, renforce la foi de nos cœurs, malgré ce qui se passe, malgré les tentations, que notre iman reste solide dans nos cœurs. Et que nous mourrons avec le shahada et qu'Allah nous donne la mort avec iman. Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.